Lorsqu'il en a assez de traîner dans les ruelles humides de la belle Venise, Stendhal va s'installer à la terrasse du café Florian sur la place Saint-Marc pour regarder les femmes passer. Il ouvre grand les yeux, cherche dans les profils radieux et les silhouettes graciles une beauté comparable à celle de Mathilde. En vain. Aucune femme n'égalera jamais la Milanaise vertueuse qui l'a définitivement éconduit. Alors, Stendhal se lève et commence à faire le tour de la place Saint-Marc sous les arcades. Et tout en marchant, tête baissée, il réfléchit. À quoi peut servir un amour impossible, sinon à écrire un livre sur l'amour ? Il faudrait y répertorier les différentes sortes d'amour. Amour physique, amour passion, bam ! Un choc violent tire Stendhal de ses pensées. Il lève la tête, mais ce ne serait pas Philippe Soler, ce qu'il vient de croiser, tête baissée, qui réfléchit à quoi peut servir un amour impossible, sinon à écrire un livre sur l'amour. Alors ce soir, chers amis, Solers n'a pas tout dit. Le maître des plaisirs revient avec un roman intitulé « Trésor d'amour », étrange expression niaise sous sa plume, où il nous offre une péripétie sentimentale dans le sillage de Stendhal au cœur d'une discrète sérénissime. N'est-ce pas, Mauduit ?
Oui, Philippe, nous accueillons ce soir Philippe Solers.
Eh oui.
Eh oui, voilà, si je vous le présentais, ça donnerait un truc du genre « Solers, Philippe, écrivain français de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe, écrivain du plaisir des femmes et de Venise », ce serait hyper réducteur. Hein.
Oui, oh, très oui, réducteur. Vrai,
énormément. Dans son dernier roman, au titre qui sonne comme une interjection pleine d'affection, Trésor d'amour. Philippe Solers nous emmène à Venise. Bien, bah voilà. Hein. Bon, pour nous, il se fait cicérone au milieu de la vie et de l'œuvre de Stendhal. D'ailleurs, au passage, il est toujours passionnant de porter un regard d'adulte sur des livres que beaucoup ont lus durant leur adolescence, hein, dans le cadre du collège ou du lycée. Oui, c'est-à-dire à l'âge où, sans doute, la passion d'un Julien Sorel ou d'un Fabrice Del Dongo nous échappe un petit peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est percutant de relire, une fois devenu grand, tous ces grands classiques. Qui parfois ont été perçus comme un pensum parce qu'ils nous parlent. C'est une merveille, c'est direct pour nous, quoi. On dépasse alors les bribes de souvenirs qui nous viennent de l'adolescence, un peu comme je me souviens de Pérec, vous voyez, je me souviens que Julien Sorel a été décapité. Je me souviens que Fabrice, emprisonné, utilise des signaux codés. Je me souviens que Philippe Solers a eu le prix Médicis. Je me souviens qu'à Waterloo, Julien n'y comprend rien. Je me souviens que Brice a été condamné pour un jeu raciste. Enfin bon, vous voyez des trucs comme ça ancrés dans notre mémoire qui forment un trésor d'amour.
Eh bien, soit dans les ruelles de Venise, lançons-nous sur les traces d'Henri Bayle en compagnie ce soir de Philippe Solers, que voici.
Bonsoir. Prendre un amant est une des actions les plus décisives que puisse se permettre une jeune femme. Si elle ne prend pas d'amant, elle meurt d'ennui et vers les 40 ans devient imbécile. Elle aime un chien dont elle s'occupe ou un confesseur qui s'occupe d'elle, car un vrai cœur de femme a besoin de la sympathie d'un homme, comme nous, d'un partenaire pour faire la conversation. Ça, c'est de Stendhal dans Lucien Leven, 1834.
Philippe Solers, bonsoir et soyez le bienvenu chez nous.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ajoute qu'il faudrait que maintenant actualiser ce texte qui a l'air très agressif. Si elle ne prend pas, bon, vers 40 ans devient imbécile, il faut maintenant rajouter vers, disons,
3-4 ans.
Au moins 55 ans. Voilà. Elle aime un chien. Bon, il y a beaucoup de chiens, en effet, dans la vie. Et, ou un confesseur. Un confesseur, ça n'existe plus. Un confesseur, non. Alors, elle aura un psychanalyste ou un gourou spiritualiste ou un médecin qui va s'occuper d'elle avec des liftings organisés et successifs. Bref, ce sera soit la technique, soit l'intérieur, l'âme, etc. Donc, un vrai cœur de femme a besoin de la sympathie d'un homme. Est-ce encore vrai ? Est-ce encore vrai ? Voilà. Donc, il faut revoir à peu près tout ça, mais ça permet... deux siècles après Stendhal, pratiquement, de poser des questions aujourd'hui dans une histoire qui se passe aujourd'hui, à Venise, aujourd'hui, avec un personnage féminin d'aujourd'hui qui a des siècles de distance par rapport à ce que t'es les femmes de cette époque. Ben, les femmes italiennes, là, c'est précisément le sujet. Une Italienne, c'est quelque chose qui a ébloui Stendhal songeait qu'il sortait de la campagne de Russie, il arrive en Italie, tout est beau, tout est magnifique. Et là, il tombe sur ce personnage, en effet, comploteur, qui fait de la politique aussi. L'amour aussi, c'est la politique. Et donc, ça, ça lui a fait écrire, en effet, ce De l'amour, qui est un livre que j'ai repris pour voir ce qui était dedans. Il a écrit ça avec une fébrilité extrême, au crayon. Il était plein d'illusions sur cet amour qui tombait sur lui. Et en fait, c'était une drogue très intéressante. Il s'est inoculé. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent, Stendhal. On peut le relire, en effet, aujourd'hui, en voyant que ses romans sont admirables. C'est très, très bien pour l'époque où nous vivons, qui est assez misérable, il faut bien le dire. Donc, il s'est inoculé cette drogue parce que l'amour, tout simplement, ça change. Ça change les perceptions. Il a un autre corps. Et le temps n'est plus le même. L'espace non plus. Les arbres, les paysages, tout ça change. Donc c'est une drogue extraordinairement intéressante parce que si vous n'avez pas d'amour, votre corps est clos, rumine les informations du jour et ne s'ouvre pas. Vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus un arbre, vous ne voyez pas les fleurs, vous ne voyez pas, vous ne sentez plus, vos sens ne fonctionnent plus. L'expérience de Stendhal, du moins à ce moment de ce livre tout à fait extraordinaire, je l'ai relu très très attentivement, c'est ça. L'amour, ça vous donne un autre corps, tout simplement, où les cinq sens peuvent jouer à la fois.
Alors moi, je constate, Philippe Solers, dans l'extrait que vous avez lu, et surtout le commentaire que vous en avez apporté, vous ne donnez pas des modifications profondes, vous actualisez la chose. Vous ne dites pas, il a complètement tort dans ce qu'il disait. Pourquoi faut relire Stendhal aujourd'hui ? Vous expliquez bien, vous avez pris un roman de Stendhal, un écrit de Stendhal, pour comprendre aujourd'hui pourquoi Stendhal est plus qu'un autre.
Eh bien, parce que c'est un être de liberté considérable. Et qui a compris dans des aventures multiples, ses romans, le plus beau roman de sa vie, c'est lui. C'est lui-même, hein, avec des tas d'histoires plus ou moins compliquées en diplomatie. Est-il consul à Civitavecchia, très surveillé par la police, très surveillé avec un système de défense qui consiste à crypter ses lettres, à prendre des pseudonymes, vraiment très étrange, très très étrange, passionnant. Et pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui défend sa liberté de façon farouche. Et je crois que le moment où nous sommes se prête fort à dire pas du tout « soyons ensemble » ou « indignons-nous ensemble » ou « restons ensemble » ou « faisons des programmes ensemble » ou « marchons ensemble », non. La vraie chose que j'essaye de transmettre grâce à Stendhal, et Happy Few, vous savez, les peu nombreux, c'est-à-dire les heureux peu nombreux. Alors on va dire c'est élitiste, mais les heureux peu nombreux peuvent être très nombreux. On organise le malheur du nombre, mais le bonheur donc, est quelque chose, c'est la chasse au bonheur de Stendhal, c'est ça, c'est sa devise. Hein. Bon, la phrase, c'est « l'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule ». Vous voyez comme il se corrige en écrivant « la plus grande des affaires », ça voudrait dire qu'il y en a d'autres. Ou plutôt la seule. Donc c'est ça, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. Et je crois que ça n'est pas du tout pour se renfermer dans une sorte d'égoïsme ratatiné, etc. Au contraire, c'est une façon de s'opposer au lavage de cerveau permanent, ou à la dictature publicitaire, à tout ce que vous voudrez, enfin que j'attaque beaucoup dans le livre. Voilà, donc là, Stendhal, il a écrit un livre extraordinaire. Il est vers la fin de sa vie à Rome. Ça s'appelle les privilèges. Il se donne une liberté, pas seulement une liberté dans la vie par la défensive, par le fait d'échapper à la surveillance. À la surveillance. Hein ? Échapper donc à la surveillance aujourd'hui, vous verrez si vous y arrivez vraiment. Et il écrit ce livre extraordinaire, qui est un livre de magie, qui s'appelle « Les privilèges », que je vous conseille vraiment de lire. Enfin, j'en fais l'analyse assez précise dans mon livre. Et voilà, alors donc il va, c'est un peu les mille et une nuits, il se donne une vie fantasmatique de liberté extraordinaire. Il a une bague, il met un peu de salive, une femme tombe amoureuse de lui, oh, il la retourne, c'est fini, c'est de la simple bienveillance, etc. C'est absolument délectable et je crois que c'est oublié. Le bonheur est une idée neuve dans l'intimité, la clandestinité de la vie, voilà. C'est injuste, disait ça, hein, une idée neuve en Europe, oui, où en sommes-nous ? Eh bien, c'est une idée absolument de plus en plus neuve. Tant pis pour les puritains, les prudes, les nouveaux dévots, le clergé intellectuel nouveau qui nous bassine à longueur de temps sur le bien, le mal et autres. Non, rentrez un peu en vous-même, essayez de trouver le partenaire qu'il faut. Ah, la rencontre, c'est très important. C'est un livre de rencontre. Hein. Là, le narrateur tombe sur une Italienne qui est la descendante de la fameuse Mathilde que Stendhal n'a pas pu avoir. Donc on est dans la réussite là où il a un peu échoué quand même.
Alors justement, Philippe Sollers, vous parlez du roman à l'instant. On sent aussi toute votre passion pour Stendhal. Vous avez mis en place une sorte de parallèle à un siècle d'intervalle entre Stendhal et le narrateur, qu'on pourrait appeler Sollers. Non, je plaisante, c'est un roman. Néanmoins, on sent ce narrateur très inquiet sur... on va dire, l'éventuelle disparition de Stendhal. Est-ce qu'il est vraiment menacé, Stendhal, de disparaître de notre quotidien? Ou est-ce qu'il va mourir dans une bibliothèque
Mais ce n'est pas seulement Stendhal, cher monsieur. C'est les morts qui sont tous très en danger. Moi, ils se plaignent, je les entends gémir la nuit. Chateaubriand est en danger, Céline est en danger, en grand danger. Proust est en danger. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes dans la prise d'une société qui est, c'est pas moi qui ai inventé le concept, du spectacle permanent et aggravé, parce que le pauvre Debord serait ahuri de voir où on en est aujourd'hui. Là, le spectacle planétaire. Bon, eh bien, vous avez la déperdition de la faculté de lire. De lire, ça veut dire de créer votre propre esprit critique, de réfléchir, de lire plus de 3 lignes en vous en souvenant. Donc, c'est ce que je fais un peu, ce métier, je sais de quoi je parle. Eh bien, sachez que c'est très en danger. Votre cerveau est en danger, monsieur. Votre mémoire est en danger. Votre système nerveux est en danger. Nous sommes tous en danger. Et Stendhal, parmi tous les qui vous voulez, comme Homer, comme Voltaire, tout ce que vous... voilà. C'est toute la bibliothèque qui est en danger. Si vous voulez qu'on passe au numérique, à Google, tout ça, et que tout se passe dans une sorte d'entonnoir où on va lire, on ne lit plus, on communique avec des mots, très rétrécis, beaucoup de nuances échappent. Voilà. Donc je pense que l'action la plus nécessaire aujourd'hui, c'est de rappeler ce danger et d'inventer une situation où on peut échapper à ce danger.
Alors justement, vous parlez de communication, vous communiquez, Philippe Sollers, dans votre trésor d'amour avec Stendhal. C'est une communication du temps présent, mais une communication avec le passé. Et nous, on va écouter...
Ah, c'est le passé plus présent que le présent. Et oui, le présent. Voilà, c'est ça.
Et alors d'ailleurs, on va écouter Stendhal, enfin Henri, qui écrit à Mathilde.
Je finis ma lettre. Il m'est impossible de continuer à faire l'indifférent. L'idée de l'amour est ici mon seul bonheur. Je ne sais ce que je deviendrais si je ne passais pas le temps à penser à ce que j'aime. Adieu, madame. Soyez heureuse. Je crois que vous ne pouvez l'être qu'en aimant. Soyez heureuse. Même en aimant un autre que moi.
Oh, oh quand même. Ce que je suis soulagée, si tu savais.
Ne pleure pas, mon petit loup.
Oh, c'est la joie. Tu sais, j'y pense toute la journée. Ça m'obsède.
Philippe Sollers, vous me reliez l'amour de Stendhal et Mathilde de votre trésor d'amour à des amours contemporaines. Vous faites dans votre bouquin une analyse de ces derniers siècles amoureux comme une ellipse hallucinante qui partirait... d'un refoulement sexuel où l'on arriverait au refoulement sexuel. Oui, vous nous racontez ça.
Il y a une boucle. Ben, il faudrait lire le passage parce
alors,
que
alors, ah ben,
comprenez, à travers les siècles.
Ce sera plus beau dans votre.
Mais oui, mais ça sera peut-être trop long.
Non, allez-y, le passage est très beau.
Voilà mon diagnostic.
Allons-y, docteur Sollers.
En 3 siècles, on est donc passé du refoulement et de la sublimation religieuse, d'accord ? Bon, au libertinage. Bon, du libertinage à la passion romantique. Bon. De là à la pudibonderie, hein, bon. De là encore à la prolifération sexuelle et pornographique, bon. Avant de retourner via la maladie et la technique de reproduction au refoulement ordinaire et originaire qui revient chaque fois au point mort. Voilà, donc la boucle est bouclée. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que la reproduction aujourd'hui, comment on va aller vers l'utérus artificiel, etc., il y a un passage absolument authentique où j'ai noté ce qui se passe dans l'endroit qui s'appelle Cryos, où on vous livre du sperme pour 2000 euros. Et il y a beaucoup, de plus en plus de clients. C'est au Danemark que ça se passe. Voilà. Donc, je crois que cette obsession sexuelle qu'on nous sert, hein, de façon très avariée, il faut bien le dire, c'est une façon de cacher ce qui est en train de monter, ben alors, par tous les bouts, enfin, allez vivre un peu aux États-Unis, vous m'en direz des nouvelles. C'est un nouveau puritanisme, une nouvelle morale, mais vraiment très, très stricte. Donc, on est en pleine régression. Je ne vous parle pas même de l'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Enfin, vous allez aller voir là si vous pouvez embrasser une femme dans la rue, par exemple. Donc, je crois que l'histoire planétaire dans laquelle nous vivons est très régressive. Il y a plein de symptômes de refoulement, de retour du religieux, etc. Et cette prise en main par la technique. Voilà. Alors, les femmes, en général, étaient surveillées par la religion. Ça n'existe plus, sauf en islam, Allahu Akbar, etc. Mais c'est plus un clergé, c'est autre chose. C'est la technique. La technique, produit de beauté, lifting, c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut, voilà, ça va. C'est le corps même qui est à raisonner, qui est surveillé. Donc voilà, il faut tenir compte. Je suis un des seuls à parler de ça dans mes romans. Je m'en étonne parce que c'est quand même ça. C'est un sujet essentiel qui tient la reproduction de l'espèce. Pourquoi croyez-vous que la religion s'en est occupée à ce point? Voilà, qui tient ça tient un pouvoir considérable. Et c'est très important.
Et alors, quelle solution vous envisagez, Philippe Solers, pour sortir de cette boucle dont vous parlez, vous qui êtes l'homme du plaisir? En tous les cas, nous vous associons assez facilement à ça.
Merci.
J'en fais plutôt un compliment, hein, Philippe Solers.
Non, ça ne me gêne pas du tout.
Quelle solution vous proposez-vous pour sortir de cette... Ouvrez la voie.
Faire très attention à la vie qu'on mène, en ayant l'impression que tout moment est important, toute journée est importante, les moindres choses. Être proche de ce qui est proche. Donc, pour ça, il vaut mieux, en effet, rencontrer des partenaires qui ne vous font pas de la vie une sorte de misère ou de reproche continu, hein, ce qui est quand même une chose.
Donc là, le couple, hein, ça.
Non, mais regardez les histoires d'amour partout. Vous êtes abreuvés. Alors, allons dans le prochain kiosque et moi, je vais vous montrer ce qui se raconte sur l'amour. Et vous allez voir qu'on va, rire, enfin, on va pleurer peut-être. C'est-à-dire, bon, les photos, etc., les adoptions, les enfants, les remariages, les divorces, et ceci, cela. Si c'est ça l'amour, il y a de quoi gerber. Eh bien, c'est précisément pour vous dégoûter de tout ça qu'on vous assaisonne et qu'on vous met tout ce matelas dans l'imaginaire.
Alors, dans l'imaginaire aussi, qui transparaît à travers votre trésor d'amour, j'adore le dire, hein. Je ne pensais pas dire trésor d'amour aussi souvent à l'antenne. Il y a, dans la comparaison du temps de Stendhal et de notre temps, l'argent. Parce que Stendhal est dans un monde d'argent. C'est la naissance d'un capitalisme boursier.
Ça commence. C'est Lucien Levene qui est le livre qui n'a pas achevé, d'ailleurs, qui est là très important sur la banque et les systèmes de communication et les initiés, qui commencent avec le télégraphe à montrer le bout de l'oreille. Il n'a pas achevé. Il était rejoint par l'actualité. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Vous pensez bien. Est-ce que vous savez très exactement ce qui se passe dans les banques aujourd'hui? Vous savez que les banques sortent. On dit c'est la crise, mais c'est pas la crise pour les banques. Les banques rutilent, les banques prospèrent. Enfin, bon, voilà. Il y a un seul héros stendhalien aujourd'hui, à mon avis. Je vais lui envoyer mon livre. Ah. C'est Julian Assange, le type de WikiLeaks, qui est en train de convulser l'État américain. J'ai vu des intellectuels qui critiquaient Assange, comme s'il voulait conserver les secrets d'État. Moi, je trouve ça héroïque. Et en plus, il risque sa vie, c'est bien évident. Et donc, il a dit une chose que j'adore, avant de ressortir de prison avec un bracelet électronique. Oh, il a dit, tant mieux, je vais aller en prison, ça me donnera au moins l'occasion de lire un livre. Et ben voilà, s'il retourne en prison, je vais pourra lire le mien.
Le vôtre. Alors, Philippe Solers, on associe assez facilement Stendhal à l'Italie, ça c'est une chose, mais plutôt à Rome ou à Parme. Pourquoi vous l'avez placé, vous, à Venise?
Parce que je crois que c'est une ville qui est trop connue pour être connue. C'est une ville extraordinairement paradoxale qui comporte des lieux de clandestinité maximale. Alors que,
encore aujourd'hui
Ah oui, oui.
C'est
ça qui me plaisait à montrer. Sitôt que vous sortez des trucs fléchés pour touristes ou amateurs d'art contemporain dans cet endroit, de ce foutoir que Pinault a osé installer sur un quai de Venise, vous décalez de 200 mètres, etc. Et vous êtes au contraire, si vous prenez un peu un bateau, parce qu'il faut voir Venise depuis l'eau, vous êtes dans quelque chose de tout à fait étonnant. C'est vivant, c'est pas une ville morte comme on dit, un musée, c'est pas vrai. Il y a quelque chose à faire de tout à fait...
Enfin, de clandestin, avez-vous dit. Hein.
Clandestin, ben oui, parce que si vous n'êtes pas clandestin...
Ah ben moi, ça m'intéresse, mais j'ai pas trouvé la clandestinité, donc à Venise.
Voilà. Et avez-vous remarqué que si vous avez une histoire, enfin, j'espère que ça vous est arrivé, que si vous avez une histoire d'amour vraiment passionnée, passionnante, elle se passe... Elle doit, pour exister, pour durer, se passer dans la clandestinité. C'est parce que la société a horreur de ça. La société a horreur de l'amour. Vous payez vos impôts au trésor public, chers amis. Oui, eh bien, moi, je vous montre ce que c'est qu'un trésor privé.
C'est très beau.
Ah oui, c'est très, très beau.
Et justement, dans l'esprit de Venise, qui est vraiment à Venise, vous l'avez dit, dans la clandestinité, vous voyagez quand même un peu. Vous pouvez retrouver de ci, de là, dans le monde, cet esprit de Venise clandestin ?
Je suis invité un peu partout. Je vais à l'aéroport. Je devrais aller en Suède, je devrais aller un peu partout, oui. Et c'est curieux, à l'aéroport, je pose mon sac et je prends un avion pour l'Italie. Alors, il y a Rome, bien sûr, mais Venise est vraiment un lieu, pour moi, tout à fait sacré. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps là, je peux marcher presque à l'aveugle dans les rues. J'écoute Venise. Et puis, c'est plein de chefs-d'œuvre. Il faut pas, évidemment, il vaut mieux rentrer dans des églises que chez M. Pinault.
Vous aimez pas, hein ? C'est de l'art contemporain.
L'art contemporain, c'est de la bouillie pour qui pourrait être jetée dans la lagune.
Mais c'est pas tout à fait vrai, ça, Philippe Solers. Il y a des choses pas mal à la pointe de la douane, là, non ? Il y a Murakami. Non, vous n'aimez pas Murakami.
Il y a Murakami. Notre nouveau Picasso, qui expose au château de Versailles.
Oui, comme Poulx, etc. Bien sûr.
On ne sait pas le montant exact de la transaction, mais enfin tout ça.
Mais ça ne vous choque pas, l'argent et l'art, Philippe Solers.
Ah, l'argent, c'est intéressant.
Ça ne vous choque pas.
Non, attends, il y a l'argent, puis il y a le fric. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et Picasso monte en argent, mais ce n'est pas du fric. Il y a des marchés différents. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Vous pouvez avoir des marchés multiples. Il y a un pseudo-marché d'art contemporain qui s'effondre petit à petit. Le dernier qui n'a pas vendu est floué parce qu'il ne peut plus revendre. Tandis que Picasso est très tranquille.
Et alors, à Venise, il y a évidemment une figure tutélaire qui vous concerne de près, voire de loin, Casanova, évidemment.
Celui-là.
Celui-là. Est-ce que l'esprit de cette Venise-là est totalement mort aujourd'hui, Philippe Solers, ou pas ?
Je ne crois pas, puisque je suis là. Non, excusez-moi. Mais le manuscrit de Casanova est arrivé en France, vous savez, au début de l'année. C'est un manuscrit qui stagnait en Allemagne, qui a été vendu pour être donné à la Bibliothèque nationale de France par un mécène inconnu. Peut-être que je le connais, je n'en sais rien.
Vous le connaissez, c'est sûr, bien
peut-être.
Sûr. Vous
Mais
êtes derrière
ce qui est ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit en français. J'étais au moment d'avoir. Le manuscrit était sous vitrine. Des photographes et des caméramans se bousculaient pour le photographier et le filmer. Personne ne se demandait dans quelle langue c'était écrit. Or, c'est écrit en français. Casanova est un grand écrivain français à mettre dans la bibliothèque à côté de Laclos, Voltaire, et tout ça, Rousseau, etc. Bon. Il y avait d'un côté l'argent, de l'autre, les photos. Et ce manuscrit, j'étais ému. J'étais ému, vous savez, c'est le Palais Royal, je voyais Diderot passer au loin, enfin, le début du neveu de Rameau, vous rappelez, mes pensées, ce sont mes catins. Voilà. Je pensais à toute cette civilisation et je voyais des gens incapables de lire, mais respectant le prix. Et bien là, vous voyez, c'est là où ça commence à devenir bizarre, d'autant plus que la fine écriture de Casanova, il travaillait 13 heures par jour en Bohème. J'ai été voir son château là-bas. Oh là là, en français.
Écrivain français, donc. Écrivain français, bon, vénitien, mais qui a quand même eu des problèmes.
Giacomo Casanova, sei colpevole di esercizio della magia nera, di possedere libri malvagi condannati dall'indice, di essere autore di scritti eretici e di disprezzo alla religione. Io, Messer Grande, per ordine degli inquisitori di Venezia, in questa ti dichiaro in arresto perché tu sia passato sotto i piombi.
Io rispetto l'illuminato giudizio del tribunale, Messer Grande. ma sono obbligato a ripetervi che mi proclamo completamente innocente.
Alors, évidemment, si vous aviez, vous, Philippe Solers, vécu à l'époque de Casanova, vous auriez eu des problèmes, non pas pour vouloir mettre l'art contemporain dans la lagune, c'est-à-dire Bellini. on est toujours en décalage, parfois. Non, vous auriez eu des problèmes en écrivant ce que vous écrivez là.
Eh bien, il est possible que j'en ai, d'ailleurs. Vous ne le savez pas. J'ai visité l'endroit où il était détenu. Parce que Casanova, c'est un grand évadé. Vous savez, il a été célèbre dans l'Europe entière parce qu'il racontait son évasion. Il s'est évadé. C'est un mot que j'aime bien, hein, l'évasion, le type qui regardait, aurait-il pu s'évader de Guantanamo, j'en suis pas sûr. Tandis que là, il raconte ça de façon admirable, coincé sous les plombs. Les plombs, il fait très chaud en été et très froid en hiver. Il devait crever là sans être jugé d'ailleurs. Mais il a trouvé le moyen de s'évader. C'est un récit admirable. Et puis il a écrit, voilà, c'est ça le plus important. Il aurait pu s'évader sans écrire ses mémoires, l'histoire de ma vie. C'est ce livre invraisemblable. Vous êtes saisi tout à coup. Stendhal, Casanova. Stendhal a lu Casanova. De temps en temps, il avait la première version expurgée par un professeur français. Et il donnait ça, il raconte ça, oui, Bonacaze, oui, ça, Maisonneuve, oui, il donne ça à une amie pour déclencher peut-être un imaginaire érotique. Et alors il lui donne à lire, et puis le surlendemain, le lui rend sans un mot.
Vive Casanova, vive Stendhal, et merci beaucoup Philippe Solers.
C'est moi qui vous remercie.
Le livre s'intitule Trésor d'amour.
Trésor d'amour.
Voilà, rassurez-vous, c'est faussement nié.
Trésor d'amour.
Ouais, vous le faites super bien. Donc évidemment, c'est chez NRF Gallimard. Ce sera disponible en librairie après-demain, mercredi 5 janvier.
Un beau voyage.
Merci Solers.
Merci à vous.